Alors je reviens sur cette parole du Seigneur que j'ai commentée il y a trois semaines, je pense. Luc 12, 35, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Je ne vais pas vous laisser tranquille avec cette parole, parce qu'elle est impérative, nécessaire, mais... Voilà, après le culte de la dernière fois, la parole continuait à travailler en moi. Je dis non, il faut que j'y revienne et que j'insiste bien sur les trois situations qui, dans la vie, nécessitent notre équipement, cette ceinture autour des reins, que vos reins soient sains. J'appelle la vie, bien sûr, spirituelle. Donc, ces trois situations, je les ai mentionnées, donc je les redis ici. C'est le service dans la maison, le contexte du chapitre 12 de Luc. C'est la marche dans le désert pour les Hébreux. Et c'est le combat sur le terrain, donc face à l'adversaire. C'est les trois, on peut dire, applications que nous trouvons dans la parole de la nécessité d'avoir la ceinture. Ceinture autour des reins, que cette ceinture soit bien pour vous un élément de votre habillement spirituel qui soit en permanence à l'œuvre dans votre vie. D'ailleurs, c'est un article de vestimentaire qui est demeuré au cours de tous les siècles et qui est encore tout à fait compréhensible à l'heure actuelle. Nous avons besoin d'une ceinture. Alors, la première application, c'est ce service au sein de la maison. Puisque le passage, Luc 12, 35, se poursuit, « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. » Se préparer pour la venue du maître. Se préparer à sa présence dans la maison, dans sa maison. Il s'agit ici de la maison du maître et des serviteurs qui sont dans sa maison. Se préparer à l'accueillir après une absence indéterminée. Nous sommes ses serviteurs au sein de sa maison. Nous habitons la maison du Seigneur. Nous le servons au sein de sa maison. Le Seigneur a une maison dans ce monde. Sa maison, c'est nous, nous dit l'apôtre Paul. Sa maison, c'est nous qui rendons à Dieu un culte par le Saint-Esprit, qui avons reçu le témoignage de Jésus-Christ. L'Église est la maison du Seigneur. Et donc, la question qui nous préoccupe ici, c'est aimons-nous notre Seigneur, le Seigneur de la maison, le Maître de la maison? Est-ce que nous l'aimons au point de ne rien négliger de son bien-être lorsqu'il sera là? Trouvera-t-il sa maison en ordre et accueillante? Et si tout est prêt, il s'agit encore de veiller pour lui ouvrir la porte. Parce qu'au fond, c'est la seule attente de Jésus exprimée dans cette métaphore. Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Simplement être là pour lui ouvrir, pour l'accueillir dans sa maison. Le maître de la maison, parce que c'est la nuit, a laissé la maison être fermée de l'intérieur et il dépend de ses serviteurs pour lui ouvrir. Si je comprends bien la parabole. Donc, peut-il compter sur eux? Seront-ils réveillés lorsqu'il arrivera et donc prêts à lui ouvrir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ont-ils assez d'amour et de respect envers lui pour prendre les mesures propres à les tenir éveillés? C'est une question d'amour pour le maître. La dominante de cette situation de service au sein de la maison du Seigneur, c'est tout simplement l'amour. Vous qui participez à la maison du Seigneur, votre attitude indique-t-elle donc la vigilance pour accueillir votre maître, le maître de la maison, ou alors y a-t-il du laisser-aller? Dans les conditions de veille, vous le savez bien, un peu de laisser-aller entraîne immanquablement le sommeil. Si vous passez une nuit et au plus la nuit avance, eh bien au plus le risque est grand de se laisser un tout petit peu aller. Et puis quand on se laisse un tout petit peu aller, on est surpris par le sommeil. Donc, comment le Seigneur nous dit, à travers ce qu'il a dit à ses disciples, veillez à Gethsémané. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont dû veiller avec le maître? Dans Marc, au chapitre 14, il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Voilà ce que le Seigneur a dit à ce moment-là et qui demeure vraiment tout au long des siècles et dans notre vie. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si vous laissez un peu de relâchement spirituel, la chair va prendre le dessus et vous plongez dans le sommeil. Si vous vous installez dans un confort spirituel, en quelque sorte, un relâchement, si vous prenez une position, on peut dire, confortable spirituellement, eh bien, vous finirez par dormir et par pratiquer les mauvaises œuvres. Donc, comment mieux rester éveillé qu'en entretenant les lampes à huile de l'époque, c'est pas comme maintenant où on allume le bouton et puis ça continue tout seul. C'est chacun qui était responsable d'entretenir la lampe en permanence. Et donc, entretenir cette lampe, c'est vraiment préserver et méditer la parole de Dieu, rester dans l'amour de cette parole qui est toujours là près de nous à être entretenue dans nos cœurs. Et c'est bien là que nous pouvons faire face à nos faiblesses naturelles. Nous devons savoir que nous sommes naturellement faibles. Nous ne trouverons pas nos ressources dans nos propres forces, mais dans ce que la parole de Dieu va nous apporter. Et donc, au plus la nuit avance, au plus le moindre relâchement peut être fatal, eh bien, nous allons suivre de ce fait-là les conseils de l'apôtre Paul. qui nous dit encore au chapitre 13 des Romains, verset 11, et il vient de parler de l'amour, hein. Il vient de parler, je vais prendre quand même, à partir du verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. La nuit est avancée, le jour approche. Il est temps de vous réveiller enfin du sommeil, nous avertit l'apôtre. Donc, c'est cette partie vraiment, c'est être dans cette maison du Seigneur avec une véritable spiritualité, une véritable piété, un véritable amour fraternel, le pardon des offenses, maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Tout cela, c'est l'amour du Seigneur, c'est se revêtir du Seigneur Jésus-Christ et être dans la prière, l'adoration, la louange, l'enseignement de sa parole, être vraiment dans cette vie d'amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs qui doit être constamment renouvelée. Et là, donc, eh bien, ensemble, nous serons éveillés lorsqu'il s'agira d'ouvrir la porte au Maître qui revient. C'est l'amour, principalement, qui domine cette situation. Être dans l'amour de notre Seigneur. La deuxième situation où il s'agit d'avoir la ceinture, c'est la marche. La marche dans le désert. Je reprends l'Exode au chapitre 12 et le verset donc 11 au sujet de la Pâque, de l'agneau qui aura été préparé. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Marcher, c'est entrer dans l'espérance et entretenir cette espérance. Abraham, qui est parti sur l'ordre de Dieu, qui a quitté son lieu pour entrer dans l'espérance jusqu'à marcher, nous dit l'Épître aux Hébreux, jusqu'à la cité de Dieu. C'était ça l'objectif d'Abraham, c'était ça la vision d'Abraham, arriver dans la cité de Dieu. Et puis pour Israël, eh bien c'était marcher vers la terre promise. Dans les deux cas, cette marche a été parsemée d'épreuves. Combien d'épreuves sur le parcours pour arriver à la cité céleste, pour arriver à la terre promise. Donc ici, ce n'est pas attendre, c'est aller vers. C'est là aussi qu'il nous faut la ceinture autour des reins. Se placer sous la protection du sang de l'agneau pour Israël, manger la Pâque, c'était concomitant à l'attente du départ. C'était être prêt à partir. Déjà, on peut dire, ceux qui espèrent en Jésus-Christ ont déjà quitté le monde mauvais. C'est déjà fait. Vous êtes déjà prêt, vous êtes déjà en marche vers le royaume de Dieu en ayant quitté ce monde. Et une fois la marche engagée, il faudra persévérer, ne pas se décourager, ne pas désirer retourner en arrière comme c'est arrivé aux Israélites qui, à un certain moment donné, ont regretté ce qu'ils avaient laissé en Égypte, bien qu'ils y étaient dans l'esclavage. Bien qu'ils étaient dominés et malheureux, ils ont à un certain moment donné regretté ce qu'ils avaient laissé, ce qu'ils pouvaient manger là-bas en Égypte en particulier. Eh bien, celui qui marche véritablement dans l'espérance ne regarde pas en arrière et il n'est pas seul pour cela. C'était tout un peuple qui marchait vers la terre promise. Et eh bien, il faudra s'exhorter mutuellement, se soutenir, ne rien regretter de ce que nous avons laissé les uns autant que les autres, parce que nous en sommes tous au même point, en tant que chrétiens dans ce monde. Tous, nous avons laissé situation, renommée, honneur, ascenseur social et Dieu sait quoi d'autre. Nous sommes en marche vers le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et c'est cela qui prime dans nos vies. Moïse, le divin Moïse, Jésus, nous entraîne dans son abandon des trésors de l'Égypte en vue de bien meilleurs. Ça, c'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, qui est bien précisé que c'est par la foi que Moïse, verset 24, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc ne revenons jamais sur l'abandon du monde. Restons ensemble en marche dans l'espérance de la vie éternelle. Jésus a dit : mon royaume n'est pas de ce monde. Rappelons-le, Jean 18, verset 36, Jésus n'est pas venu changer le monde, mais nous changer de monde. Et donc, notre impact, notre investissement n'est pas celui de faire tous nos efforts pour changer ce monde actuel, mais bien pour nous placer résolument dans le monde que Jésus nous a préparé. Donc il s'agit pour nous de cultiver cette espérance intérieure, d'avoir une éthique personnelle, des actions en conscience, quel que soit le résultat sur la vie présente, que nous soyons approuvés ou non, ce qui nous importe, c'est de vivre pour nous-mêmes par avance ce royaume de Dieu qui est joie, paix, amour par le Saint-Esprit et non pas avantage et réalisation dans cette société. Combien sont présentés justement dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 qui ont été totalement dépouillé par rapport à la vie présente, à la vie dans la société. Je rappelle quand même, si je reprends ce chapitre 11, que sur la fin, alors d'autres furent livrés aux tourments, n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Voilà le témoignage qu'ils ont laissé et que nous continuons à porter avec eux dans la foi en Jésus-Christ. Et enfin, troisième application concernant le port de cette ceinture, le combat, tout simplement. Celui que Paul nous mentionne dans l'épître aux Éphésiens, combat de la foi, combat de la vérité, combat pour la justice de Dieu, la justice du royaume. Éphésiens donc 6, bien sûr. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ici donc le combat de la foi, le combat spirituel qui doit nous trouver plein de force. La justice du royaume, combattre pour cette justice-là, cette vérité révélée, cette foi en l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ, dans le salut, par son sacrifice à la croix, dans la victoire de Dieu, à travers la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Ce combat-là, c'est le combat des pensées contre toutes les voies d'égarement, contre les enseignements pernicieux. C'est un combat de résistance aux attaques du diable, à ses mensonges, à ses insinuations. Satan est appelé dans l'Apocalypse, au chapitre 12, là aussi, versets 10 à 11, il est appelé l'accusateur des frères. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » L'accusateur des frères, il était déjà mis en évidence dans le prophète Zacharie au chapitre 3, versets 1 et 2. Cet épisode avec Josué. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or, Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange, et l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur et ils mirent un turban pur sur sa tête. Ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Passage magnifique où nous voyons Satan prêt à accuser Josué à cause de son injustice, puisqu'il a des vêtements sales, mais l'intervention de l'ange de Dieu qui ôte le vêtement sale et qui revêt d'un habit de fête. Vois, je t'enlève ton iniquité. Et à partir de ce moment-là, le diable, Satan, n'a plus de moyens d'accusation. Son accusation tombe parce que Josué est revêtu de la justice de Dieu. Eh bien, c'est ce combat que nous devons maintenir fermement contre les attaques du diable, contre la mauvaise culpabilité, contre aussi toutes ces philosophies humaines qui s'oppose à cette simple foi dans la justice de Dieu accomplie à la croix du calvaire. Car c'est là notre foi, c'est que Jésus-Christ a pris sur lui notre condamnation. Et là, eh bien, il n'est pas question de toute cette science matérialiste qui est à l'œuvre et qui voudrait s'imposer comme, on peut dire, la référence absolument ultime. Même dans le domaine de la foi, des écritures, etc. Toutes les doctrines religieuses idolâtres, tout cela est combattu par une foi vivante en Jésus-Christ. La vérité doit nous trouver puissants. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Dans le domaine donc de la foi. C'est, on peut dire, la saine théologie, la défense de la foi. Nous sommes face à l'orgueil, la prétention humaine, à des critiques de toutes sortes. Eh bien, nous maintenons la foi telle qu'elle a été transmise au sein une fois pour toutes. Cette foi, nous la maintenons telle qu'elle nous a été transmise. Nous n'inventons rien, mais nous maintenons fermement la doctrine de la foi en Jésus-Christ, en son sacrifice expiatoire et en sa justice parfaite. Nous sommes appelés à obtenir des victoires, des avancées sur le terrain, dans l'évangélisation, implanter des églises, proclamer la pertinence de l'évangile. Et tout cela, c'est impossible sans avoir cette ceinture, toute cette armure que mentionne l'apôtre Paul. La foi transmise au sein une fois pour toutes, jusqu'à ce que notre Seigneur paraisse victorieux sur tous ses ennemis. Ce Seigneur qui a été incarné en Jésus-Christ, qui est mort réellement sur cette croix et qui est ressuscité le troisième matin, monté au ciel devant ses apôtres et qui est maintenant à la droite de Dieu, jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. En reprenant ces trois domaines d'application concernant cette ceinture, le domaine du service, le domaine de l'amour, le domaine de la marche, c'est-à-dire de l'espérance, le domaine du combat, c'est-à-dire de la foi, eh bien nous sommes dans les trois vertus que mentionne l'apôtre Paul. Il y a trois choses qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, on en revient au point de départ, c'est l'amour. Soyons prêts dans l'amour de notre Maître, de notre Seigneur et Sauveur, pour lui ouvrir dès qu'il se présentera. Amen.